Tournez avec moi sans plus tarder dans les Actes des apôtres. Actes chapitre 8. Et si vous étiez avec nous lors du culte de rentrée, on a entamé une série qui s'intitule « De passer aux actes ». Et on a vu ensemble que le livre des Actes pourrait se scinder en deux parties très simples. Premièrement, l'union. Et deuxièmement, la mission. Premièrement, l'union, c'est extrêmement important pour le Seigneur que l'Église soit unie. Amen. On a parlé de l'importance de l'unité, on ne reviendra pas là-dessus. Et dans Actes 8, Jésus a dit, « Mais vous recevrez une puissance et vous serez mes... » Oh, vous n'êtes pas encore réveillés. Mais ça va venir. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins où? À Jérusalem, Judée, Samarie. Et jusqu'aux extrémités du monde. Amen. C'est bien, vous connaissez la parole de Dieu. Alléluia. J'étais sur Déjazé la semaine dernière, beaucoup de jeunes dans la foi sur Déjazé. Ils peinaient un peu à me nommer Samarie, mais vous, ça va. Amen, c'est bien. Le problème dans les actes, c'est que le Seigneur leur avait dit, vous allez recevoir une puissance et vous serez mes témoins de Jérusalem jusqu'aux extrémités du monde. Cependant, jusqu'au chapitre 8, il reste à Jérusalem. Des milliers viennent à Christ. La Bible dit, l'Église était en paix, on a parlé de l'unité. Ils étaient un seul cœur, cardia. Ils battaient au même cœur, il y avait une unité exceptionnelle, une œuvre du Saint-Esprit vraiment puissante. Si tu peux mettre un petit peu de retour, Ephraim, ce serait apprécié. Et ils étaient vraiment dans cette unité exceptionnelle. Jusqu'au chapitre 8, quelque chose arrive. Ils ne partent pas de Jérusalem. Et on va le lire ensemble dans un instant, mais ce qui touche mon cœur, c'est que les âmes sont si précieuses au cœur de Dieu que Dieu va permettre quelque chose d'extrêmement difficile pour les chrétiens, d'extrêmement douloureux, mais pour que d'autres puissent connaître Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, mais il l'a donné pour qu'il meure à la croix. Et quand on arrive au chapitre 8, on voit que Dieu a tant aimé le monde que maintenant, il va donner l'Église, non pas en sacrifice de rançon pour les péchés, mais Dieu va littéralement livrer l'Église à une période de persécution pour pousser les chrétiens en dehors de leur confort parce que vraiment, ils sont bien à Jérusalem. Ils se chuchotent les uns les autres, ils partagent, c'est l'amour fraternel, l'unité, tout va bien, extraordinaire. Mais peut-être ont-ils oublié la mission initiale. Ce n'était pas de venir à Christ pour être ensemble, se coucouner. Ça se dit en France, se coucouner? Oui, ça se dit. Bon. Pour se faire du bien et être ensemble et rester ensemble et vieillir ensemble et se chouchouter jusqu'à ce que Jésus revienne. Non, la mission initiale, c'était vous recevrez une puissance, vous serez mes témoins et vous devez aller jusqu'au bout du monde. Et le Seigneur voyait les âmes perdues. Alors, on arrive au chapitre 7. Et un homme de Dieu exceptionnel, Étienne, va donner sa vie, va mourir comme le premier martyr. Et on arrive au chapitre 8, Saül approuvait, verset 1er. Et regardez bien comment Dieu fait les choses de façon divine. Acte 1, 8, soyez mes témoins jusqu'au bout du monde. Acte 8, 1, ils vont se mettre en route pour accomplir Acte 1, 8. Tournez-vous à la personne à côté de vous et dites-leur, dites à la personne à côté de vous, acte 1, 8 s'est mis en mouvement dans acte 8, 1. Maintenant, dites-le 10 fois rapidement sans bégayer. Non, non, c'est pas vrai. Ne inquiétez pas. Mais acte 1, 8 va prendre forme vraiment dans acte 8, 1. Saul approuvait l'exécution d'Étienne. Ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'Église de Jérusalem. Donc, on parle de milliers de familles. Jérusalem n'était pas une si grande ville, ce n'était pas aussi grand que Paris. Si vous êtes déjà allé à Jérusalem, on peut traverser Jérusalem à pied en 20-25 minutes. Ce n'est pas très, très grand, Jérusalem. Donc, il devait y avoir un pourcentage de chrétiens dans cette ville exceptionnelle, un vrai réveil, quelque chose qu'on rêve, nous, pour Paris. Mais Dieu dit, il faut aussi sortir des murs de Jérusalem. Et ça dit ceci, une grande persécution éclata à Jérusalem. Et tous, à l'exception du pasteur Boulagnon et du pasteur Christian, se dispersèrent dans les diverses régions de Judée et de Samarie. Verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Chers amis, j'aimerais vous montrer quelque chose. Notre Dieu est un Dieu de mouvement. Notre Dieu n'est pas statique. Et l'Esprit de Dieu est un esprit de mouvement. Si vous êtes venu à Christ pour poser vos valises, vous asseoir dans un canapé, regarder la télé en paix, dire « je suis en paix avec Dieu et mon voisin, alléluia, je vais au ciel ». Chez nous, on a une expression en Amérique du Nord, je vais vous apprendre un peu d'anglais, on dit « couch potato ». Couch potato, ça veut dire « couch », ça veut dire le canapé, et « potato », ça veut dire les chips. Et il y a une expression américaine, c'est « on s'assoit dans le canapé, on mange des chips, on regarde la télé », typiquement américain. Si vous êtes venu à Christ pour faire du « couch potato », vous n'êtes pas à la bonne adresse. Parce qu'en Jésus-Christ, le Saint-Esprit ne nous assoit pas, il nous met en mouvement. Amen. Le confort n'est pas extérieur, il est intérieur, mais l'extérieur est une vie en mouvement. Amen. Et quand, regardez comment l'Esprit de Dieu est, chers amis. On parle beaucoup du Saint-Esprit, on est un mouvement de Pentecôte. Mais vous remarquez, on s'appelle un mouvement de Pentecôte. On dit même que nos églises, les assemblées de Dieu, sont un mouvement de Pentecôte. Donc, l'Esprit de Dieu est une personne qui est continuellement en mouvement. Au commencement, dans Genèse 1, l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Jean 1, au commencement était la parole. Et le mot ici, c'est logos. Et pour Aristote et Platon, parce que les Français, ils aiment beaucoup Aristote et Platon. Mais pour Aristote, alors je parlais d'Aristote et Platon pour les Français. Mais pour Aristote et Platon, le logos, à l'époque, était un mot très important chez les Grecs parce qu'il signifiait une parole concrète, du concret. C'était le verbe. Et Jean, inspiré de Dieu, ne savait pas à l'époque, mais que ça servirait aussi aux Français, de savoir que Jésus est la parole de Dieu. Il est un verbe, il est du concret. Jésus est venu pour apporter du concret. Jésus est en mouvement, le Saint-Esprit est en mouvement. Je parlais il y a quelques temps, il y a quelques semaines, avec un pasteur au téléphone qui m'a dit qu'il a fait une recherche poussée sur le royaume des cieux. Il m'a dit, tu sais, Christian, quand ça dit, littéralement, quand Jésus dit, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche, eh bien, le mot en grec peut se traduire, le royaume de Dieu est en mouvement. Le royaume de Dieu s'approche, est en mouvement, bouge. Jésus aurait pu louer une salle, se mettre un bureau et dire que le monde vienne à moi. Mais il n'a pas fait ça. Il est allé partout dans Israël. Notre Dieu est un Dieu de mouvement. Pensez à cette image. Quelle est la plus grande image que nous avons du Saint-Esprit? Le souffle. Il est appelé roi. Un souffle, c'est un mouvement. C'est quelque chose qui bouge. Ézéchiel. Dieu a donné une vision à Ézéchiel. Et du trône de Dieu sortait un immense fleuve. Nous savons que sur le trône, c'est Christ. Amen. Et nous savons que Christ nous a envoyé son esprit. Et l'Esprit de Dieu est ici dans cette vision d'Ézéchiel, représentée par un grand fleuve. Et l'ange va faire traverser une partie du fleuve à Ézéchiel. Il va lui demander de mesurer, et on sait que la mesure, c'est à peu près plus de... Le fleuve fait des kilomètres de large, dans cette vision. Ézéchiel n'en voit pas le bout. Mais c'est un fleuve qui est en mouvement. Et Dieu Dieu est une personne qui est en mouvement. Et si tu viens à Christ, Dieu va mettre ta vie en mouvement. Voyez-vous? Il va amener une paix dans ton cœur, mais il va bouger, il va bouger dans ta vie. Il va changer des choses dans ta vie. Mais après, il va te mettre en mouvement. Et c'est ça qu'on retrouve dans Acte 8. L'Église était bien, l'Église était bénie. Moi, je lis Acte 1 à 8, j'ai dit, mais c'est merveilleux, c'est l'Église par la métropole, c'est extraordinaire. Tu ne peux pas avoir mieux. Mais ça ne suffit pas. L'Église doit bouger. L'Église doit sortir. L'Église doit aller vers ceux qui souffrent et amener la parole de Dieu, et amener l'espoir de Jésus-Christ. Amen. Avez-vous déjà pensé, le vent, c'est l'air qui est en mouvement. Si le vent s'arrête, c'est plus du vent, c'est que de l'air. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit est représenté comme le vent dans la Bible. L'Esprit de Dieu est toujours en mouvement, toujours en train d'agir, toujours en train de faire quelque chose, constamment, que tu le ressentes ou que tu ne le ressentes pas, que tu le vois, que tu ne le vois pas, que tu en sois conscient ou non, l'Esprit de Dieu est en train d'agir constamment. Parce qu'il est un souffle de vie. Il est un vent, l'Esprit de Dieu. Et il bouge. Et s'il ne bouge plus, il n'est plus l'Esprit de Dieu. Parce qu'il est un souffle. Une rivière, Jésus dira à la Samaritaine au bord du puits, il lui dira, « Si tu savais qui te demande à boire, c'est toi qui lui demanderais, il te donnerait des eaux vives. » Et le mot que Jésus utilise, ce sont des eaux vivantes, c'est Zoé, c'est la vie éternelle. Si tu savais, moi je te donnerais le fleuve d'eau vive qui coule, ce sont des eaux vives, des eaux qui régénèrent ton esprit, qui renouvellent ton âme, qui guérit ton âme, qui guérit ta vie, qui nettoie ton esprit de tout mensonge, qui va toucher même ton identité, relever ton identité, nettoyer ton identité. Si tu savais qui te demande à boire, c'est toi qui lui demanderais, il te donnerait des eaux vives. On dit qu'une eau stagnante, c'est très intéressant, on dit qu'une eau stagnante est vecteur de maladie, mais une eau courante est vecteur de vie. Le Saint-Esprit, Dieu, notre Dieu, est un Dieu qui est en mouvement. Quelqu'un dit « Amen » ce matin. Mais je vais aller plus loin. Jésus dit à Nicodème dans Jean 3, quelque chose de très intéressant. « Celui qui est né de l'Esprit est comme le vent. » Et si vous remarquez bien, il ne parle pas du Saint-Esprit. Il parle de celui qui est né de l'Esprit. Ça veut dire que si tu es né de Dieu, le Saint-Esprit vient vivre en toi et cet Esprit de Dieu qui bouge va te faire bouger. Et toi aussi, tu vas te remettre en mouvement. Un chrétien, c'est quelqu'un qui bouge. Un religieux, c'est quelqu'un qui ne veut pas bouger. Mais un chrétien, c'est quelqu'un qui est en mouvement. C'est quelqu'un en qui Christ peut être en mouvement. Le chrétien, le Seigneur peut changer sa mentalité, peut toucher son cœur, peut changer des choses dans sa vie, parce que le Saint-Esprit est comme une rivière, il est comme un vent, il bouge en nous, il change nos vies. Quand on ne veut pas changer, c'est parce qu'on est religieux. Parce que le chrétien, lui, veut changer. Amen. Historiquement, c'est extrêmement interpellant de voir qu'en 2000 ans d'histoire du christianisme, de Acte 8 jusqu'à aujourd'hui, le Saint-Esprit n'a jamais arrêté d'être en mouvement. J'aime les catholiques de tout mon cœur, mais je ne suis pas d'accord avec eux. Saint-Denis n'était pas catholique. Saint-Denis, le vrai nom de Saint-Denis, pardon, j'ai oublié, c'est Dionysius. Constantin, en 330 après Jésus-Christ, Constantin a établi le catholicisme. Mais Dionysius est arrivé à Paris en 245 après Jésus-Christ. Près de 75 ans, 80 ans plus tard, le catholicisme a débuté à peine à Rome. Donc, Saint-Denis Dionysius, qu'on appelle Denis de Paris, n'était pas catholique parce que le catholicisme n'existait pas. Dionysius, c'est un simple chrétien romain, italien, 4e, 5e génération de chrétiens après l'apôtre Paul, passionné de Jésus, qui a entendu parler de lutèce, où les gens étaient très loin des valeurs de Dieu. Ça ressemble encore à aujourd'hui. Hein? Très, très loin des valeurs chrétiennes. Et lui et un groupe d'amis se sont dit, on va aller leur parler de l'amour de Jésus. Et pas loin d'ici, dans le quartier Saint-Germain-des-Prés, ils ont commencé à annoncer l'Évangile. Il y a eu un réveil. Ça a duré 4-5 ans. Et puis après, à un moment donné, les prêtres gréco-romains se sont saisis d'eux et ont tué certains d'eux. Et ils ont tué celui qu'on appelle aujourd'hui Saint-Denis. Mais à la base, ce jeune homme, poussé par l'Esprit de Dieu, ne pouvait pas rester dans sa cour à siroter un thé. Il devait aller jusqu'au bout du monde parler de Jésus. Amen. Parce que quand le Saint-Esprit vient, il te bouge. Tu offres des tomates à ta voisine, tu fais quelque chose, je ne sais pas. Le Saint-Esprit te met en mouvement. Parce qu'il est un mouvement. Et quand on entame cette série ensemble de passer aux actes, je vous le dis vraiment de tout mon cœur, Jésus revient bientôt. Et l'Église doit bouger. L'Église doit se lever. L'Église doit agir. L'Église doit passer aux actes. Quelqu'un dit amen aujourd'hui. Amen. On va un petit peu plus loin dans l'histoire. On arrive dans une période que vous connaissez, qui est la période des Huguenots, où d'après plusieurs historiens, la population française est montée à près de 18 à 20 %. C'était difficile à l'époque de faire des statistiques, ce sont des évaluations. Mais près de 20 %, 15 à 20 % de la population française sont devenus des huguenots, en fait des protestants, dont plusieurs étaient des chrétiens, des vrais chrétiens, par milliers. Si vous avez lu un peu l'histoire dans les forêts de la Cévennes, il y avait des milliers de chrétiens qui se réunissaient ensemble, qui chantaient, qui étaient dans la parole, même parfois sous la pluie, qui étaient affamés, assoiffés de Jésus. On dit que sur Paris, à l'époque, 30 % des nobles de Paris étaient des chrétiens protestants. Et puis, il est venu une persécution. Et puis, il y a eu la révocation de l'édit de Nantes avec Louis XIV. Je fais mon histoire française, hein, vous m'aidez un peu. Et on a lancé ce qu'on appelle les dragonnades. Mais ce que j'ai lu, j'ai un vieux fascicule qui n'existe plus, que quelqu'un m'a procuré, qui est extraordinaire, avec des vieux témoignages, que la société aujourd'hui ne veut pas publier. Mais à l'époque, il y avait un jeune homme, parce qu'il y a eu l'époque des galères, où on mettait les chrétiens sur les galères à Marseille, et il y a un jeune homme, un adolescent, nous ne connaissons pas son nom, rempli du Saint-Esprit, qui aimait Jésus de tout son cœur, qui a dit « Moi, je ne peux pas rester chez moi, juste être chrétien. Je dois vivre et mourir pour Jésus. » Il allait dans le port de Marseille, il descendait dans les galères, il allait prendre les chrétiens dans ses bras, prier avec eux alors qu'ils étaient dans leur chaîne et le dos fouetté. Il les encourageait, il leur prêchait pour les encourager dans la foi. Et quand il attendait les dragons du roi ou les soldats descendre dans la galère pour l'attraper, il se sauvait. Son histoire est montée jusqu'au roi de France. On a lancé des chevaliers du roi à sa trousse. Ce jeune homme, cet adolescent, a traversé la France à pied pour Jésus-Christ. Et moi, je n'irai pas voir mon voisin. Allô? Ça fait réfléchir, hein? Quand le Saint-Esprit touche un chrétien, le chrétien bouge. Il se met en mouvement. Amen. C'est ça l'Évangile. Je vais plus loin. On parle d'une époque, une vraie époque. Ce qu'on appelle dans l'histoire du christianisme, c'est important parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas ces choses. Mais il y a un siècle que l'on appelle le grand siècle du christianisme. Je suis désolé, ce n'est pas le nôtre. Nous ne sommes pas du tout dans le grand siècle du christianisme. Mais le 19e siècle fut le grand siècle du christianisme où des milliers de missionnaires partirent dans le monde entier. Des milliers. Des hommes, des femmes qui n'en pouvaient plus de simplement être chrétiens, il leur fallait aller annoncer l'Évangile. Je le dis avec beaucoup d'amour et de grâce et de douceur et que Dieu m'aide, mais ça, c'est tellement loin de l'Évangile qu'on entend souvent parfois sur les réseaux sociaux ou sur Internet autour de nous. Voyez-vous, cet Évangile qui dit « Toi, tu es le centre ». Et Dieu va te bénir, et Dieu va faire des grandes choses avec toi, et Dieu va te donner tout ce que tu veux, et tout vient de Dieu, et tout est là pour toi. Cet évangile n'est pas vrai. Il y a une image qui m'est venue cette nuit dans mon esprit, je t'ai réveillé, et je dis, n'est-ce pas vrai? Plus l'homme est bas, plus il pense que tout tourne autour de lui. Mais plus il s'élève, plus il réalise que c'est lui qui tourne autour des autres et de Dieu. Pendant longtemps dans l'histoire, l'homme a cru que le soleil tournait autour de lui parce qu'il était bas. Mais quand il s'est élevé en connaissance et quand il s'est élevé avec des moyens technologiques, il a découvert que non, le soleil ne tourne pas autour de moi. C'est moi qui tourne autour du soleil. Je ne suis pas le centre, c'est le soleil qui est le centre. Et quand on vient à Jésus, au début, on est comme un petit enfant, on a tellement besoin, et je comprends, et parfois tu viens à Christ, tu es blessé, tu es brisé, et les chrétiens se mobilisent pour t'aider et prier avec toi, et il y a cette entraide, et je comprends qu'il y a cette étape, mais à un moment donné, tu grandis dans la foi, tu arrives à une maturité, et tu réalises que le soleil ne tourne pas autour de toi, Dieu ne tourne pas autour de toi. Ce n'est pas moi le centre, c'est Christ le centre. Et l'Évangile, ça fait mal, on va peut-être perdre des gens, mais il faut prêcher le vrai Évangile. L'Évangile, ce n'est pas une bonne nouvelle qui est là pour moi. Je ne suis pas la finalité de l'Évangile. Ce n'est pas que l'Évangile est là pour me donner une meilleure qualité de vie. L'Évangile, si je viens à Christ pour être sauvé, je trouve une paix, je trouve un confort intérieur, mais maintenant je vis pour Christ. Le soleil ne tourne pas autour de moi. Le soleil, je ne suis pas le centre et tout tourne autour de moi. Non, le centre, c'est Jésus-Christ. et tout tourne autour de lui, et toute la gloire lui revient. Et c'est tellement extraordinaire de voir qu'à cette époque, cet évangile était vraiment prêché partout. Extraordinaire. On dit que plusieurs familles de missionnaires ne partaient pas avec des valises. Ils mettaient leurs affaires personnelles dans un cercueil. Parce qu'ils étaient convaincus, un, qu'ils ne reviendraient pas, et deux, ils étaient prêts à mourir pour Jésus. Soit de maladie, soit de persécution. C'était une époque extraordinaire. C'était l'époque du grand siècle. En un siècle, au 19e siècle, en un siècle, la planète est passée, globalement bien sûr, de 34%. 34% de la planète avait été touchée par l'Évangile. Un siècle plus tard, plus de 80% de la planète avait été atteinte par l'Évangile. Nous ne sommes pas la génération qui touche le plus la planète. Ce n'est pas nous. Nous sommes une génération où on a besoin de réveil. Quelqu'un dit amen. Je ne parle pas de notre Église, parce que notre Église est extraordinaire. Mais on a quand même un peu besoin aussi, nous aussi. Mais je parle de globalement l'Église de France a besoin de retrouver ce pur évangile, voyez-vous, où on est sauvé et après on est prêt à vivre pour Jésus, à faire des sacrifices, à se donner pour lui et à aller plus loin. Quelqu'un dit amen aujourd'hui. Il y a eu ce mouvement mondial, mais il y a eu aussi un mouvement qui est local. En 1874, la très réputée Université d'Oxford en Angleterre, tout le monde connaît Oxford aujourd'hui, mais très peu de gens savent qu'en 1874, il y a eu un réveil à Oxford. 1500 pasteurs se sont réunis en jeûne et prière durant l'été. Il est sorti de ce moment de repentance des 1500 pasteurs à genoux à chercher la face de Dieu ensemble. Il est sorti de cela une phrase. Abandon total à Jésus-Christ, pardon total de nos péchés par son sang et effusion du Saint-Esprit pour se sentir mieux dans sa peau. Non. Effusion du Saint-Esprit pour le service. Dites avec moi service. Des pasteurs, dont certains auteurs très, très connus, des hommes de Dieu qui ont marqué l'histoire, ont dit l'Église, l'effusion du Saint-Esprit n'est pas pour avoir de meilleurs feelings. L'effusion du Saint-Esprit n'est pas juste pour qu'il se passe des miracles et qu'on y aille voir comme des spectateurs. Ça n'a jamais été l'intention de Dieu. Dieu veut faire des miracles, bien sûr, mais dans un but précis. L'effusion du Saint-Esprit, c'est pour que l'Église se lève et serve Jésus-Christ. C'est ça le Saint-Esprit. Et c'est ça l'histoire des Actes des apôtres. Et c'est ce que le Saint-Esprit a fait depuis 2000 ans. Et des actes locaux, des actes de proximité, des millions de chrétiens à l'époque, une période de réveil extraordinaire, partout des chrétiens faisaient des actions. Certains allaient jusqu'au bout du monde pour Dieu, mais d'autres allaient vers leurs voisins, vers un mendiant sur la rue, allaient dans une proximité. Parce que lorsque le Saint-Esprit agit, l'Église se met en mouvement. Amen. Ce qui touche mon cœur, c'est de voir, et je vais terminer bientôt, quelque chose d'extraordinaire. Pendant que Karl Marx attisait la colère de l'Europe avec ses écrits, parce que c'était vraiment des écrits de colère, peut-être justifiés, je ne sais pas si ça se justifie, mais bon, peut-être expliqués par des ouvriers dans des usines qui étaient vraiment exploités par une tyrannie patronale de l'époque, je peux comprendre qu'il y avait un contexte extrêmement difficile. Pendant que lui écrivait des articles, il a même été éjecté de la France tellement qu'il était un agitateur. Pendant que Karl Marx écrivait ces choses, il y avait un homme qui, lui, au lieu de juste répandre sa colère, aidait les pauvres. Et cet homme, c'est William Booth, qui a fondé l'Armée du Salut. Deux contemporains. Un est dans la colère, l'autre est dans la compassion. Un est statique, ne fait qu'activer la colère, et l'autre est en train de changer le monde et d'aider les pauvres autour de lui. Parce que la différence, c'est que le deuxième avait le Saint-Esprit. Voyez-vous, mes amis, on est tous d'accord. Franchement, il faut vraiment avoir un problème pour ne pas reconnaître que cette nation est dans une grande souffrance, que cette ville va de mal en pire. Vraiment, tout le monde en parle. c'est globalisé, les médias, tout le monde sur la rue, les gens disent « Paris n'est plus comme il était ». On peut passer notre temps à parler de que Paris va de mal en pire, ou on peut passer notre temps à aider ceux qui souffrent, à aider nos collègues, à aider les gens autour de nous. Et l'Église, c'est ça l'Église. Je ne veux pas être un homme, j'espère que c'est votre cœur ce matin, je ne veux pas être un homme qui savait beaucoup de théologie et qui en a pratiqué peu. J'aimerais mieux pratiquer le peu que je connais. Allô? Très bonne occasion de dire Alléluia, Amen. Hein? Je remercie Dieu parce que l'Église Paris Métropole est une Église en mouvement. Je remercie Dieu parce que je parlais avec Manu Chose et de Coup de pouce, qui m'a envoyé un rapport de tout ce qu'ils ont fait dans la dernière année. Et j'ai commencé à lire et à calculer et à découvrir 25 activités différentes sur une année pour aider les pauvres. On en entend peu parler. Ça se fait dans le silence, ça se fait humblement, ça ne se fait pas avec une fanfare, ça ne se fait pas pour être vu ou connu. Mais près de 25 activités différentes, sociales, socio-humanitaires, sur la rue, dans des endroits, dans des locaux, avec des mères seules qui sont en difficulté, ou tous les vendredis soirs, les maraudes, des repas pour les SDF ici, les vendredis soirs régulièrement, toutes sortes d'activités. Vraiment, je bénis Dieu pour cette Église. Quelqu'un dit « Amen » aujourd'hui. Je bénis Dieu pour cette maturité. Et je le dis vraiment d'un cœur sincère ce matin, parce que j'ai vu toutes sortes d'églises. J'ai vu des églises qui ne veulent pas bouger. Mais ici, ce serait un problème de ne pas bouger. C'est une église qui aime bouger. Merci pour ce que vous avez donné pour le campus sur Logne. Aujourd'hui, le campus de Logne, je parle à l'église mère ce matin, parce que l'église mère, c'est vous, qui a aujourd'hui deux filles, Logne et Desjazets. Et dimanche dernier, j'étais sur Desjazets, j'étais béni de voir tout ce qui a été investi par cette église. Béni, quelques semaines auparavant, d'être sur Logne, de voir comment le campus se développe. Samuel, Isabelle me disaient qu'à la rentrée, l'église était pleine, saturée d'âmes, de voir régulièrement, tous les dimanches, il y a des nouveaux qui viennent sur ce campus. L'église Paramétropole est une église en mouvement. Je remercie Dieu aussi que vous nous libérez. Parce qu'il y a des églises, si leur pasteur n'est pas là tous les dimanches, ils vont râler. Mais ici, un dimanche, ça peut être moi, un dimanche, ça peut être pasteur Boulagnon, ça peut être Pierre, ça peut être Didier, ça peut être quelqu'un d'autre. Et c'est une église qui ne vient pas à l'église pour le pasteur. Amen. C'est une église qui vient pour rendre un culte à Jésus-Christ. Amen. Nous sommes une église en mouvement. Ce n'est pas un message de reproche ce matin, c'est un message d'encouragement. Nous sommes dans l'Esprit. L'Esprit agit dans cette église. Mais le Seigneur ne veut pas qu'on pense qu'à nous. Il y a d'autres églises en souffrance. Vous savez, chaque année, le conseil d'administration de cette église prend une partie de ce que vous donnez pour aider d'autres églises aussi. Chaque année, ça se fait. On veut penser à l'extérieur. Je suis béni ce matin de présenter Shakti, de présenter José, Médéric aussi, qui est présenté sur le campus de Logne. On était en pastoral lundi de présenter encore trois jeunes serviteurs, voir Nico aussi, qui progresse avec le Seigneur dans la foi, qui s'implique à Jap, Léandro, tout ça. Je suis béni. Nous sommes une église en mouvement. Amen. Mais je vais aller plus loin ce matin. Toi, est-ce que toi, personnellement, le Seigneur peut te mettre en mouvement? Et en terminant aujourd'hui, deux choses. Le Saint-Esprit veut agir en toi et deuxièmement, il veut agir par toi. Le vent souffle, mais si tu fermes tous les volets, il ne soufflera pas chez toi. Donc, c'est très simple. Le vent est fidèle. Le vent est fidèle à lui-même. Il est ce qu'il est. Il souffle. Et l'Esprit de Dieu est un vent. Il souffle. Et parfois, vous savez, un bon vent peut nettoyer tout le marché de Paris. C'est vrai, hein? Et un bon vent, quand on ouvre son cœur, peut nettoyer beaucoup de choses dans nos vies. Amen. Mais parfois, on garde une pièce fermée. On ne veut pas qu'il souffle dans cette pièce, parce que dans cette pièce, il y a des petits objets précieux qui pourraient casser, mais dont le Saint-Esprit n'est pas d'accord. Et voyez-vous, pourquoi je vous dis ceci ce matin? Parce qu'avant de te mettre au large pour servir Dieu, Dieu veut entrer en toi et nettoyer toute ta vie. De quoi je parle? Je ne parle pas que seulement ceux qui sont devenus parfaits, qui n'ont plus de problèmes, plus de combats, plus de chutes, plus d'épreuves, plus de découragement. Ceci, seulement eux peuvent servir le Seigneur. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, pas du tout. Mais il y a une chose qui doit être réglée avant de servir Christ. Il faut être libre. Libre. Le Saint-Esprit veut souffler dans ta vie pour te libérer de tout ce qui est plus fort que toi. Ça peut être une personne. Il y a des gens qui sont sous l'emprise de quelqu'un. Le Saint-Esprit veut te libérer. Ça peut être une substance, ça peut être la cigarette, ça peut être le cannabis, ça peut être l'alcool, ça peut être la pornographie, ça peut même être une série télévisée. Ça peut être n'importe quoi. S'il y a une chose qui est plus forte que toi, qui te contrôle, c'est simple, hein? Tu sais si tu es libre jusqu'au jour où quelque chose se pointe et essaie de te faire tourner à droite ou à gauche. Et s'il y a une chose qui a le dernier mot sur Jésus-Christ, eh bien, parce que Christ est le Seigneur est un gentleman. Il ne nous force pas. Mais il y a des choses qui nous forcent, qui veulent nous maîtriser, qui veulent nous contrôler, nous manipuler. Et si une chose est plus forte que toi, tu as besoin que le Saint-Esprit vienne dans ta vie et te libère. Tu ne peux pas prêcher la liberté si tu n'es pas libre. On ne prêche pas d'être des saints parfaits. On a tous parfois des petits moments de tempérament ou de... Bien, on a tous des imperfections. On est couvert par le sang de Jésus. Et on peut servir Jésus, même si on ne se sent pas digne, même si on n'est pas encore parfait, on peut servir Jésus. Mais il y a une chose toutefois, il faut être libre. Libre de tout. Amen. Et si ce matin, il y a quoi que ce soit dans ta vie, le Seigneur veut venir et il veut te libérer. Ce n'est pas compliqué en terminant. Mais Jacques dit, confessez donc vos péchés, afin de vous faire taper dessus. Non. Confessez donc vos péchés afin d'être jugés par vos proches. Confessez donc vos péchés pour que votre prochain réponde, « Ah, je le savais! » Confessez vos péchés afin d'être guéri. Être libre, c'est être guéri. Voyez-vous? Et ce matin... J'ai une question pour vous. Est-ce que tu as quelqu'un à qui confesser? Je ne parle pas d'aller dans un confessionnal et de. Je ne parle pas d'un système comme ça. Je ne parle pas de courir constamment vers le pasteur. Ça peut être un frère, une sœur dans la foi qui est mature, qui ne va pas te juger, qui va t'aimer, et lui dire, écoute, il y a quelque chose. Il y a quelque chose dans ma vie, j'ai besoin d'être libéré de cette chose. Il faut que tu confesses. Et le Seigneur va faire le reste. Ouvre les volets et le vent va souffler la liberté en toi. Amen. Je termine avec ceci. D'abord, le Saint-Esprit veut passer à l'action pour t'affranchir et le Saint-Esprit, en terminant, veut passer à l'action pour compatir. Plus on s'approche de Dieu, plus on va vers ceux qui souffrent. C'est un excellent, en anglais on dit « a gauge », c'est une excellente mesure, thermomètre de ta vie chrétienne. Il y a des gens qui savent énormément sur Jésus-Christ, ils vont presque jamais vers les gens qui souffrent. Alors, ils savent beaucoup sur Jésus-Christ, mais ils ne sont pas proches de Jésus-Christ. Parce que la connaissance et la proximité de Dieu, ce sont deux choses différentes. On peut avoir beaucoup de connaissances, mais pas dire à la connaissance « enfle ». N'est-ce pas? Ça rend orgueilleux, la connaissance. Mais l'expérience de Christ, ça, c'est autre chose. Il est impossible qu'un homme s'approche de Christ sans que Christ le lance vers ceux qui souffrent. Impossible. Il y a un effet élastique avec Dieu. Plus tu montes, plus après tu descends. Plus tu montes au ciel dans ta vie spirituelle, « Oh, mon frère, j'étais à ciel ouvert. Oh, c'était le ciel sur la terre. Amen, super. » Et après? Ah, ciel ouvert extraordinaire. Merci Seigneur pour toutes ces choses-là. Ah, le culte dimanche matin, mais qu'est-ce qu'on a été béni? La louange, alléluia. Et ton voisin cet après-midi. Plus on s'approche de Dieu, plus on s'approche de notre prochain. Ça, c'est le vrai évangile. Si ce n'est pas ça, c'est la religion. C'est la religiosité. Amen. Quand un enfant naît, c'est un nourrisson. Et le nourrisson, pourquoi on l'appelle un nourrisson? Parce qu'il pense qu'il y a une chose, être nourri. Et le nourrisson, s'il manque de lait, qu'est-ce qu'il fait? Mouah! Et je n'irai pas dans tous les détails, mais tous ses besoins sont exprimés par un cri. Parce que le nourrisson ne pense qu'à lui, mais il est complètement dépendant de la mère. Et c'est tout à fait normal. Et quand tu viens à Jésus-Christ au début, que tu penses qu'à toi, c'est normal. Mais à un moment donné, si le nourrisson a 45 ans, il y a un problème. Comprenez ce que je veux dire? Et le Saint-Esprit est un bon papa. Et le nourrisson devient petite. Elle apprend à marcher. Et à un moment donné, elle se met au plan de travail avec maman. « Maman, maman, je veux un tabouret. » Vous avez tous déjà vu, toutes les mères ont vécu ça. Hein? Moi, je l'ai vu, j'étais dans ma maison. Je n'étais pas là, mais j'ai entendu parler. « Maman, je veux voir ce que tu prépares pour papa. Maman, maman fait une salade de fruits pour papa. Oh, je veux t'aider, maman. » Maman met un tabouret, la petite Rebecca monte sur le tabouret, et maman coupe les fruits, Rebecca mange les fruits. Maman dit, « Non, tu ne peux pas toucher au couteau. Toi, tu poses les fruits, elle pose un fruit, elle mange un fruit, elle pose un fruit, elle mange un fruit. » Mais elle apprend à maturer. Elle apprend à grandir. Et qu'est-ce qui se passe? Petit à petit, il y a cette œuvre de maturation, de maturité, où le nourrisson, un jour, deviendra une mère. Et une maman, qui est dans un état normal, bien sûr, une maman, tu n'as pas besoin de lui dire de se réveiller la nuit pour le nourrisson qui pleure, parce qu'elle est mère. Voyez-vous? Elle a maturé. Ce matin, je veux parler à une église mature. Je veux parler à des chrétiens matures en terminant. Quand il y a un cri, il faut y aller. Quand il y a un cri de douleur, de souffrance, ça peut être un collègue qui arrive au bureau avec la mine basse. Ça peut être un voisin que tu entends à travers les murs qui a des embrouilles. Le chrétien mature, lorsqu'il entend le cri, comme la mère se réveille la nuit, il y va. Il se réveille. La maturité spirituelle, c'est ce sacrifice de la mère. La mère, elle va sacrifier son sommeil. La mère ne pense pas à elle. Une mère qui pense à elle, qui oublie ses enfants, ce n'est pas une bonne mère. Elle a des problèmes. Il faut appeler les services sociaux. Mais une bonne mère, normale, dans un état normal, c'est naturel en elle d'aider, de servir, d'aller vers les autres. Amen. Et le Saint-Esprit fait cette œuvre dans nos vies. Voyez-vous, le Saint-Esprit est comme un bon capitaine. Et il fait deux choses avec son navire. Un, il largue les amarres. Il enlève tout lien. Toute chose qui peut être un lien dans ta vie qui te lie, toute chose qui te lie, ça peut être la peur, ça peut être n'importe quoi, toute chose qui te lie, qui t'empêche d'aller plus loin avec le Seigneur, le Saint-Esprit va couper les amarres. Il va enlever ces choses. Mais après, le Saint-Esprit hisse les voiles et nous amène au large. Mes amis, il n'y a pas de zone de confort en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit nous fait sortir de notre zone de confort. Amen. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils. Et j'oserais dire ce matin, car Dieu a tant aimé qu'il a permis que la première Église soit persécutée pour qu'elle sorte de Jérusalem. Acte 1-8 s'est matérialisé dans Acte 8-1. Et partout où ils allaient, ils annonçaient la parole de Dieu. Alors en terminant, peut-être vous dites, mais pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Je vais vous dire vraiment du fond de mon cœur. Il y a des gens qui rêvent de changer le monde pour Jésus, mais ils ne pensent même pas à leurs voisins. Une chose, vraiment, ça vient du cœur de Dieu ce matin, j'en suis profondément convaincu. Commence par une chose, juste une chose. On a besoin, José l'a dit, on a besoin de serviteurs à l'Église dans toutes sortes de départements, c'est merveilleux. Il y a des gens qui sont en train de se sacrifier, de sacrifier leur culte pour garder les enfants, c'est merveilleux. Mais je vais aller encore plus en retrait. On va débuter au début des choses, tout début. Ouvre tes yeux et regarde au plus près de toi. qui Dieu a mis au plus près de toi. Et bénis ces gens. Fais-leur du bien. Sois en mouvement pour ton prochain. Amen. On va se lever ensemble. Les musiciens peuvent s'approcher. Hein. Je ne sais pas s'ils m'entendent. Hallelujah. Prions ensemble. Seigneur Jésus, tu es un Dieu qui est en mouvement, Seigneur. Esprit de Dieu, tu es en mouvement dans nos vies, dans nos cœurs. Et tu veux aussi agir à travers nous, Seigneur. Alors, Seigneur, nous venons vers toi ce matin, Seigneur. Nous t'ouvrons nos cœurs. Et peut-être es-tu ici ce matin et il y a des choses dans ta vie qui sont maîtres de toi. C'est peut-être une chose, et le Saint-Esprit, alors que je parle, met le doigt sur cette chose. Il le nomme à ton cœur. L'Esprit de Dieu est vivant, mon ami. Il parle. Il te dit maintenant, il y a cette chose dans ta vie qui doit, tu dois être libéré de cette chose. Donne-la-moi. Ouvre la porte de ton cœur et je vais souffler. Je vais faire partir cette chose. Et alors que nous prions ce matin, tu peux lui dire, Seigneur, viens, Seigneur. Viens, Seigneur, je vais être libre, Seigneur. Je vais être libre de tout, Seigneur. Dis-lui, libère-moi. Si tu as besoin d'être libéré, dis au Seigneur, Seigneur, libère-moi, Seigneur. Peut-être de la culpabilité du passé, peut-être quelqu'un a sa main sur toi, peut-être l'emprise de quelqu'un sur toi. Ça peut être une substance, n'importe quoi. Nous ne sommes pas une église avec des préjugés. Nous n'allons pas juger quelqu'un qui fume la cigarette. Nous voulons t'aimer et croire que le Seigneur peut te libérer. Le Seigneur veut que tu sois libre. Il n'y aura jamais de préjugés sur ces choses-là. Mais il y aura de l'amour et un désir de liberté. Hallelujah. En terminant, mes frères et sœurs, demandons au Seigneur, Seigneur, sers-toi de moi, Seigneur. Disons, Seigneur, Seigneur, sers-toi de moi, Seigneur. Seigneur, tu vois la violence, tu vois l'attaque qui a eu lieu à la préfecture de police, Seigneur. Tu vois combien cette ville est dans une grande douleur, Seigneur. Nous voulons être une église qui bénit cette ville, Seigneur. Et nous voulons commencer par notre prochain, Seigneur. Dis-lui, Seigneur, sers-toi de moi, Seigneur. Dis-lui ce matin, Seigneur, envoie-moi, Seigneur. Sers-toi de moi, Seigneur. Peut-être iras-tu au bout du monde pour Jésus. Amen. Mais peut-être resteras-tu ici jusqu'à la fin de ta vie. Mais Dieu se servira de toi là où tu es. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Disons-lui au Seigneur en terminant, juste avant de se séparer, de se quitter. Dis au Seigneur, Seigneur, me voici, Seigneur. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Le mot puissance peut se traduire par quelque chose de dynamique. Mais je sens vraiment vous dire ceci en terminant. N'allez pas sauter sur qui que ce soit cet après-midi pour l'aider. Il y en a qui vont partir. Mais je vous dis quelque chose que j'ai vraiment vécu dans ma vie. Faites juste vous rendre disponible. Parfois, nous ne sommes pas disponibles. Rendez-vous disponible à Dieu et attendez. Vous allez voir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Merci.